Voici une question dont plusieurs cherchent désespérément la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le secours de Dieu? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui pourrait être la solution à vos plus grands problèmes, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va tous être fortement encouragés aujourd'hui. Alors que la Bible va nous donner une très bonne réponse à chacune des questions que voici. Qu'est-ce que Dieu veut être pour nous? Quel est le meilleur moyen de dissiper nos craintes et nos doutes? Est-ce que le croyant a quelque chose à craindre? Comment pouvons-nous avoir une relation intime avec Dieu? Est-ce que Dieu désire avoir notre cœur? Est-ce qu'il veut qu'on réponde à son amour? Est-ce que Dieu protège ses enfants contre leurs ennemis? Que faut-il faire pour avoir le secours de Dieu? Restez avec nous, on a tous besoin d'entendre l'enseignement que le Seigneur va nous donner aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Allons donc dans la présence de Dieu et demandons-lui de nous aider à bien comprendre toutes ces bonnes paroles d'encouragement. Prions. Ô Seigneur, on veut réclamer ta présence, ta douce présence. Touche nos cœurs par ta parole aujourd'hui. Aide-nous à bien comprendre tout ce que tu vas nous enseigner et aide-nous surtout à l'appliquer dans nos vies à chaque jour. On t'aime, Seigneur. Merci pour ta belle parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous étudions le psaume 27, un psaume profondément spirituel que connaissent de nombreux chrétiens. Plusieurs reconnaîtront le premier verset lorsque nous le lirons. Le psaume 27 se divise naturellement en deux parties. Les six premiers versets parlent de ce que Dieu pourvoit pour l'encouragement et la foi des siens. Le reste du psaume est une prière pour du secours et du soutien. Ce n'est pas un psaume pour une élite spirituelle, mais pour tous les cœurs. C'est une prière de David et elle débute en grande vitesse. Chers amis, débutons notre lecture, le psaume 27, verset 1er. De David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » De nouveau, nous sommes devant un psaume qui parle en « il » et en « me ».« L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Laissez-moi vous poser cette question. Dieu est-il la lumière de votre vie? Celui qui vous aime et qui vous soutient. L'Éternel est ma lumière. Il est le Dieu saint. Il est celui qui me dirige et me guide à la lumière de sa parole. Plus loin, le psalmiste dira, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le psaume 119, verset 105. Dans le Nouveau Testament, Jésus déclare être cette lumière. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et en parlant du Saint-Esprit, nous réalisons qu'il est aussi la lumière. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous avons ici le Dieu trinitaire. La gloire de Dieu sur la face de Christ, brillant dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit. As-tu cette lumière? Possédez-vous cette lumière? Le texte du psaume 27 précise qu'il est également « mon salut ». Cette expression nous révèle l'amour de Dieu. parce que c'est à cause de son amour qu'il nous a procuré un moyen de salut. Ce salut, bien entendu, passe par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Citation de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu n'a pas tant aimé le monde qu'il a sauvé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a procuré un moyen de salut pour les pécheurs. Et c'est sur cette base que nous devons nous y approcher. Ce salut doit passer par Jésus-Christ. Comme Pierre l'a expliqué, l'apôtre a dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Actes, chapitre 4, verset 12. C'est de ce salut que David parle. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Il poursuit en précisant que l'Éternel est le soutien de sa vie. Non seulement Dieu nous donne-t-il la vie, mais il nous soutient afin que nous puissions la vivre sur cette terre. Mes amis, est-il la lumière de votre vie, celui qui vous aime et qui vous soutient? De qui aurais-je peur? Une méthode de dissiper nos craintes et nos doutes est de faire appel aux grandes vérités de la Bible, de placer notre confiance en cette parole. L'ignorance n'a pas de taille devant une tentation forte. Nous devons connaître et pouvoir citer la parole de Dieu. Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Satan rôde pour nous dévorer. David devait penser à un temps de sa vie où il fut en grand danger. Jeune garçon, il fut berger et dut affronter des lions et des loups pour protéger ses brebis. Sa vie était parfois en danger. Nous ne rencontrons pas souvent d'ours et de lions. Lorsque nous le faisons, ils sont habituellement dans une cage, ou nous sommes dans une cage si l'on visite certains zoos. Par contre, dans nos rues, nous rencontrons des personnes qui sont comme des ours et des lions, et elles cherchent à nous dévorer. De plus, il y a le lion de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, où nous lisons « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Revenons à notre psaume, verset 3. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. » Chers amis, nous n'avons rien à craindre, car Christ est ressuscité. Il est vivant. David mettait sa confiance en Dieu, ainsi que dans le soutien qu'il apporte aux siens aujourd'hui encore. Avez-vous noté que lorsque Jésus apparut aux femmes venues au tombeau après sa résurrection, il leur dit de ne rien craindre et de ne pas s'épouvanter? Vous et moi avons un Sauveur ressuscité. Souvent, nous sommes dans la crainte. Il faut se rappeler que le Seigneur est avec nous et lui faire confiance. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ce verset est riche. David a réduit sa vie en une seule chose. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Paul aussi a fait cela avec sa vie. Il a dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14. Aujourd'hui, réduisez votre vie, comme vous tailleriez un crayon jusqu'à ce que vous pourriez vous en servir pour écrire. Nos vies sont compliquées, donc éliminons le superflu. Voici une citation de J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes. « Pendant presque toute ma vie, je me suis senti comme Marthe dans la cuisine. Elle était occupée aux soins domestiques. » On peut lire cette histoire dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 40. « La pauvre Marthe saisit une poêle pour faire cuire quelque chose. Ensuite, elle chercha un chaudron pour y faire bouillir de l'eau. Ensuite, elle prit un bol pour y mettre les patates. Puis, dans son énervement, elle fit tomber des choses à l'armoire. Elle devint frustrée en essayant de tout faire à la fois. » La vie peut devenir compliquée pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes frustrés, tendus, sous pression, tout le temps. C'est bien de réduire notre vie à ce qui est important. Il faut réduire notre vie au plus petit dénominateur commun. J'espère que vous ne m'en voulez pas de partager une expérience personnelle. Les temps les plus heureux de mon ministère furent ceux qui suivirent ma retraite du ministère pastoral. C'est alors que débutèrent les temps les plus profitables spirituellement. J'ai vu plus d'âmes venir au Seigneur Jésus pendant ce bref intervalle de ma vie que dans toute autre période, et je ne fus jamais autant dans la joie qu'aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? J'ai réduit ma vie à la seule chose que je désire vraiment faire, enseigner la parole. C'est la seule chose que je fais et ma vie est réduite à cela. Je suis enthousiaste au sujet de mon ministère et je crois que c'est ce que le Seigneur veut que je fasse. Fin de la citation de J. Vernon McGee. Chers amis, désirez-vous une relation intime avec Dieu? Voilà notre priorité. David avait finalement réduit sa vie à une seule chose, habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Je ne crois pas que David voulait apporter son sac à couchage au tabernacle et y demeurer tout le temps. Mais il voulait que l'Arche de l'Alliance, là où Dieu rencontrait son peuple, soit près de lui à Jérusalem. Il a fait des mains et des pieds pour l'apporter à Jérusalem. Il fit monter un tabernacle pour l'Arche et il planifia la construction d'un temple merveilleux pour Dieu. Pourquoi? C'était par l'arche qu'il avait accès à Dieu. David ne désirait plus qu'une chose, la présence de Dieu. Est-ce votre besoin? Dieu est prêt à le combler. Nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ, et c'est la chose qui devrait réjouir notre cœur. C'est lui qui va nous aider à réduire notre vie à cette seule chose importante. Paul énumère 8 bienfaits découlant de la justification par la foi dans son épître aux Romains. Chapitre 5, versets 1 à 5. Le deuxième bienfait mentionné est l'accès à Dieu, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est merveilleux de pouvoir venir au trône de la grâce et y rencontrer Dieu. Cet accès à Dieu était le but ultime de la vie de David. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le propitiatoire se trouvait dans la maison de Dieu. David avait besoin de la miséricorde de Dieu, et moi aussi. J'en ai besoin, et je suis certain que c'est votre cas aussi. Dans la maison de Dieu se trouvait un autel qui était un symbole de la croix du Seigneur Jésus. Ceci permettait à David de venir en présence de Dieu. Vous et moi pouvons venir en présence de Dieu en passant par le Seigneur Jésus. Nous avons accès à sa grâce merveilleuse. Avoir accès à Dieu est un privilège. Comprenez-vous pourquoi ce psaume touche tellement les enfants de Dieu? Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Jésus est notre victime propitiatoire. C'est-à-dire, l'endroit secret du tabernacle se trouvait dans le lieu très saint. Seulement, le souverain sacrificateur était autorisé à pénétrer à l'intérieur de ce lieu très saint. C'est là qu'avait été placée l'Arche de l'Alliance, qui était en fait une boîte plaquée d'or. Mais sur l'Arche, il y avait un couvert élaboré que Dieu appelait le propitiatoire parce que le sang était aspergé sur celui-ci. Maintenant, aujourd'hui, puisque le Seigneur a versé son sang, nous avons aussi un propitiatoire. C'est là qu'il nous met à l'abri. Chers amis, nous ne pourrions trouver un endroit plus sûr. Cet endroit nous est mentionné par l'apôtre Paul. L'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 25. C'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Verset 26 rajoute, « Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Voilà notre abri pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Verset 6 « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Lorsque nous comprenons le sens de cette belle image et que nous voyons ce qu'il a fait pour nous, nos cœurs seront remplis de chants. Ceci amena David à faire cette prière, le verset 7. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » Voyez-vous, dans le lieu secret, il y avait de la miséricorde. Dieu a préparé un lieu très saint pour nous, où nous pouvons recevoir sa miséricorde. Notre lieu très saint est la personne de Jésus-Christ. C'est là que nous retrouvons la miséricorde de Dieu. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Dieu désire votre cœur. Est-ce que vous répondez à son amour? Grande question, n'est-ce pas? David place l'invitation dans la bouche de Dieu. Quand Dieu a dit, cherchez ma face, David dit, je l'ai déjà fait. Mon cœur dit, je chercherai ta face, Seigneur. Mes amis, Dieu désire votre cœur. Est-ce que vous répondez à son amour? C'est terrible de vivre avec une personne qui n'exprime jamais son amour. Le mariage n'est pas un arrangement par lequel un couple se divise les tâches et les responsabilités quotidiennes. Le mariage est une relation intime, chers amis. Si ce n'est pas le cas, le mariage n'est rien. Il en est ainsi de notre relation avec Dieu. David a réagi lorsque Dieu lui a dit « Je t'aime ». David a répondu « Je t'aime ». Lorsque Dieu a dit « Je veux avoir une relation intime avec toi », David a répondu « C'est réciproque ». Verset 9. « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. » « Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Lorsque David a péché, il a découvert ce que c'était que d'avoir Dieu nous cacher sa face. Il n'avait plus de relation intime avec Dieu. Par le fait même, il en a perdu sa joie. Mais il a prié, « Rends-moi la joie de ton salut. » Citation du psaume 51, verset 14. Revenons à notre texte, le psaume 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Rien dans les livres historiques de la Bible n'indique que les relations entre David et ses parents aient tourné au vinaigre. Selon J. Vernon McGee, ce verset devrait être au conditionnel. si les parents de David l'avaient abandonné. D'autres érudits pensent que l'abandon est en fait le décès des parents de David. Ceux-ci devaient être âgés au moment de la rédaction du psaume 27. Il se peut qu'à cause de leur âge avancé, ils ne pouvaient plus soutenir David comme autrefois. D'autres explications ont été suggérées. Premièrement, le verset est une supposition. Deuxièmement, il y aurait eu un froid entre David et ses parents. Et troisièmement, le père et la mère de David représentent les amis intimes. Le verset serait une forme d'exagération. Une chose est certaine, nous pouvons être assurés de l'accueil de Dieu à cause de son amour, de sa sagesse, de sa puissance, de son éternité et de sa promesse. Verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. David dit, « Je veux rendre un bon témoignage devant mes adversaires, parce que je sais qu'ils vont me critiquer. Je te demande de veiller sur moi. Seigneur, aide-moi à ne pas salir ton nom par mes actions. » Verset 12. « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. » David ne voulait pas être livré entre les mains d'individus qui s'opposaient à la cause de Dieu. Tout homme qui atteint une position élevée s'attire les critiques d'hommes malicieux. Certains haïssent tous ceux qui les surpassent. Ils parlent contre leurs ennemis pour s'attirer de la sympathie ou pour se sécuriser. Seule la bonté de Dieu peut nous protéger de ce genre de méchanceté. Soyons reconnaissants pour la grâce de Dieu qui nous protège de ce genre d'individus ambitieux et cruels. Verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants! Même dans notre monde contemporain, nous pouvons voir la bonté de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Verset 14. Espère en l'Éternel! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Parmi les chrétiens, nous trouvons beaucoup de cœurs timides et peureux. Nous souffrons tous un petit peu de cela. Comment guérir cela? Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Lorsque nous allons à Dieu avec notre problème, il nous fortifie. Nous ne pouvons pas trouver un meilleur cardiologue. Maintenant, passons à la lecture du psaume 28. Versets 1 et 2. De David, Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Verset 6. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Versets 7 à 9. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Chers amis, si vous faites confiance en Dieu, il vous secourra. Vous pouvez devenir à l'instant même une de ses brebis. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant, cette fois, les psaumes 29 et 30.
Merci beaucoup, Régent. De qui aurais-je peur? Oh, mes amis, on a bien vu aujourd'hui que tous ceux qui ont Jésus comme sauveur, qui ont Dieu comme Père, n'ont aucun sujet de craindre qui que ce soit. Et pourtant, je dois vous avouer qu'il m'arrive encore d'avoir peur, de craindre certains événements, certaines personnes même. Mais heureusement, j'ai appris à refuser ces craintes, à les chasser dans le nom de Jésus et à chasser ces peurs, puisque Dieu est toujours là pour me soutenir, me protéger, m'aider. Autrefois, je pouvais être des semaines à m'inquiéter. Oh, je priais, mais je laissais l'inquiétude et la peur prendre le dessus sur moi. Mais depuis quelques années, j'ai reçu du bon enseignement à ce sujet, et je suis convaincue qu'au nom de Jésus, Dieu me libère de mes craintes et de mes peurs. J'ai souri aujourd'hui quand Réjean nous a rappelé que lorsque les anges sont apparus aux femmes qui étaient venues au tombeau après la résurrection de Jésus, ils leur ont dit de ne rien craindre et de ne pas s'épouvanter puisque Jésus était ressuscité. Si j'ai souri, c'est que je me suis reconnue. Je sais très bien que si j'avais été là avec ces femmes, j'aurais probablement été celle qui était la plus apeurée. Mais aujourd'hui, je sais que Jésus est vivant et qu'il a vaincu celui qui était l'objet de mes peurs quand il est mort sur la croix. Et en plus, Jésus vit en moi par son esprit maintenant, depuis que je suis une enfant de Dieu. Mes amis, quand j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, quand je me suis repenti que je lui ai demandé de me sauver, de me donner la vie éternelle, je suis devenue une enfant de Dieu. Et ce jour-là, j'ai demandé à Dieu de prendre tout mon cœur. Et je sais qu'il l'a fait. Et tout comme David, j'aime répondre à son amour. J'aime lui dire que je l'aime et que je désire sa présence. Et parfois, quand il m'arrive de trébucher, de pécher, je m'empresse de le confesser à Dieu, de lui demander pardon. Et je le remercie parce que je sais qu'il m'accorde toujours ce pardon. C'est ainsi qu'il agit avec ses enfants. D'ailleurs, il nous enseigne dans la première épître de Jean, au premier chapitre, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il ajoute même au verset suivant que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mon ami, as-tu vécu la vraie repentance? T'es-tu reconnu pécheur, pécheresse un jour? Paul nous dit dans son épître aux Romains au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais donc t'inviter à te repentir, toi aussi. Change de direction à l'égard du péché. Demande pardon à Dieu. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix il y a environ 2000 ans. J'ai reconnu que c'était pour moi et il m'a donné la vie éternelle. Et maintenant qu'il est mon sauveur et mon berger, il me libère chaque fois que j'ai des craintes. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que je n'ai pas peur de mourir parce que je sais que depuis environ 28 ans, que le jour où je mourrai, si j'ai à passer par la mort, j'irai tout droit au ciel pour être avec Dieu pour l'éternité. Veux-tu avoir cette certitude? Reconnais Jésus comme ton sauveur. Reconnais-le comme ton Seigneur. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Il est là, les deux grands bras ouverts devant toi.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement. En plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.